bonjour, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure, dans la grande table d'été, nous parlerons d'humour poétique, juste avant de faire le portrait d'Emmanuel De Vos. Il est 12h30. L'heure d'écouter le journal de la rédaction, présenté par Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. La polémique estivale sur le burkini, un vêtement de bain qui couvre le corps des femmes en Corse après une violente bagarre samedi soir, le maire de la commune prend un arrêté contre le port de cette tenue. Il est le troisième magistrat à prendre une telle décision. Nous entendrons ses motivations dans un instant. Nous reviendrons aussi avec Marie-Pierre Véroux sur les violences récentes qui ont émaillé l'île de Beauté. Et puis avec Antoine Marette, retour sur ses arrêtés municipaux contestés en justice mais validés par le tribunal de Nice avant-hier. La vie étudiante toujours plus chère, Marion Chantreau nous détaillera le rapport du syndicat UNEF. Un étudiant sur deux cumule un job avec ses études, un sur dix contracte un crédit pour financer son cursus. Au Nigeria, une vidéo des filles de Chibok, ces jeunes femmes enlevées par la secte islamiste Boko Haram il y a un peu plus de deux ans. Précision à suivre de Nadine Epstein. Et puis en Syrie, le régime et son allié russe intensifient les frappes sur les zones rebelles au nord, nous dira Nabila Hamel. Éviter les logiques de tension, l'appel au calme lancé ce matin par les autorités corses après les violences de samedi soir sur une plage du nord de l'île, près de Bastia, dans le village de Sisco. Selon des témoins, la bagarre a éclaté parce que des touristes photographiaient des femmes se baignant en burkini, ce vêtement de bain qui couvre intégralement le corps. Le burkini dans la région, en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, déjà la semaine dernière au centre de plusieurs arrêtés municipaux pour l'interdire à Cannes et à Villeneuve-Loubet, on va y revenir. Eh bien, il en sera de même désormais dans cette commune corse. Le maire de Sisco, Ange-Pierre Vivonne.
Nous avons pris quand même des décisions importantes, à mon avis. C'est des décisions très fortes. La première, c'est d'annuler le feu d'artifice qui était prévu ce soir sur la marine de Sisco. Non pas pour une question de peur, ça on ne connaît pas, mais c'est plutôt pour solidarité des victimes. Et puis les Sisquais n'ont pas envie de faire la fête, ça c'est évident, tout le monde est quand même catastrophé. La deuxième chose qui est d'une importance à mon avis très très forte, c'est que le conseil municipal à l'unanimité a décidé de prendre un arrêté pour interdire la burqa sur les plages de notre territoire. Il est évident que cet arrêté pourra être déféré devant le tribunal administratif, mais je le défendrai coréen. Je ne suis pas contre la religion musulmane, je connais très 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 bien le Coran pour l'avoir lu plusieurs fois. Je suis plutôt pour pouvoir rassurer notre population et aussi la population maghrébine de ma commune et ailleurs.
Ange-Pierre Vivonne, le maire de la commune corse de Sisco, joint par nos confrères de France Bleu Radio Corse, Frequenza Mora. Ailleurs, disait-il, ailleurs en Corse, où ce n'est pas la première fois qu'il y a des affrontements avec la population d'origine maghrébine. Marie-Pierre Véroux, vous vous étiez rendu sur France Culture, pour France Culture il y a quelques mois sur l'île de Beauté. Après cette bagarre, on entendait hier dans les rues de Bastia le slogan « On est chez nous » dans une manifestation de 500 personnes environ. Des slogans qui ne sont pas nouveaux.
Oui, qui avaient déjà retenti en effet en décembre dernier sur les hauts d'Ajaccio, lorsque plusieurs centaines de Corses avaient violemment manifesté contre la population d'origine maghrébine après une embuscade tendue contre des pompiers la nuit de Noël. Une manifestation émaillée donc de slogans racistes, d'appels à la haine et ponctuée par l'incendie d'une salle de prière. Si l'enquête a permis d'interpeller deux personnes accusées de l'attaque contre les pompiers, aucun auteur d'acte raciste ou xénophobe n'a encore été entendu par la justice. Et ce n'est pas nouveau en effet, mais depuis plusieurs mois, l'atmosphère est très tendue en Corse entre les populations d'origine maghrébine et les Corses les plus nationalistes. Plusieurs incidents ont été relevés, notamment depuis les attentats sur le continent, et les violences affleurent vite dans les discours. Citons par exemple le mitraillage d'une boucherie halal à Propriano en début d'année, le dépôt de têtes de sangliers, voire de balles de vin de long rif devant des lieux de prière. Au mois d'août, ce sont des tags racistes et le tag IAF, I-Arabi Fora, les Arabes dehors, qui étaient découverts sur les murs d'une salle de prière et d'un commerce halal à Ghisaccione. L'amalgame n'est donc jamais loin, stigmatisant les musulmans. Et ce dimanche encore, c'est un effet au cri de « Nous sommes chez nous » que plusieurs centaines de personnes se sont dirigées vers le quartier de Lupino à Bastia, là où réside une importante communauté d'origine maghrébine, sans que la police ne puisse les arrêter. Le rassemblement s'est dispersé sans incident, mais des propos très violents ont été entendus et certains ont promis de revenir. Pour l'heure, les circonstances de la rixe de ce week-end à Sisco entre des hommes d'origine maghrébine et des jeunes du village restent confuses. Elle aurait démarré, selon des témoins, alors que des femmes qui se baignaient en burkini étaient prises en photo et que leur leurs époux s'y sont opposés. C'est l'enquête ouverte en flagrance pour violence en réunion qui devrait déterminer plus précisément ces circonstances, ainsi que l'enchaînement des violences qui ont suivi quand des jeunes Corses ont appelé leurs parents à la rescousse. Mais on le voit, le moindre incident peut violemment dégénérer et les appels au calme se multiplient.
Marie-Pierre Véraud, on a entendu au début de ce journal le maire de cette commune corse où s'est déroulée la bagarre de samedi soir prendre un arrêté anti-Burkini qui sera enregistré demain en préfecture. Le maire disant s'appuyer sur deux arrêtés similaires pris la semaine dernière à Cannes et à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Je le défendrai corps et âme, disait-il à l'instant devant le tribunal, si l'arrêté était contesté. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour Ludovic.
L'arrêté cannois a lui été contesté en justice par une association et des particuliers. Avant-hier, rejet de cette demande par le tribunal administratif de Nice, le collectif contre l'islamophobie en France va faire appel au Conseil d'État.
Effectivement, l'ordonnance écarte le caractère urgent de la demande. L'arrêté du maire de Cannes contre le Burkini date du 28 juillet. Les requérants ont saisi le juge des référés le 12 août. Le juge note également que l'arrêté du maire respecte les dispositions de l'article 1er de la Constitution, selon lequel la France est une république laïque. Il est donc interdit de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Sauf qu'en France, la règle est la suivante. Pas de signes religieux dans les écoles, les collèges et les lycées publics et pas de foulard intégral. À part ces restrictions, rien n'interdit le port de signes religieux dans l'espace public. Plus étonnante encore est cette allusion du juge aux attentats. Dans le contexte d'état d'urgence et des récents attentats islamistes survenus notamment à Nice il y a un mois, le port d'une tenue vestimentaire distinctive, autre que celle d'une tenue habituelle de bain, peut en effet être interprété comme n'étant pas dans ce contexte qu'un simple signe de religiosité. Autrement dit, le juge des référés sous-entend que le contexte rend le burkini plus politique que religieux. Il pourrait même marquer un soutien implicite aux violences. Cela rejoint la déclaration du directeur général des services de la ville de Cannes qui évoquait, je cite, « des tenues ostentatoires faisant référence à une allégeance à des mouvements terroristes qui nous font la guerre ». C'est donc maintenant le Conseil d'État qui va trancher dans cette affaire et on verra donc s'il suit le tribunal administratif.
Dans la foulée de cette polémique sur le port du Burkini, je vous renvoie à l'interview du probable président de la nouvelle Fondation pour l'Islam de France, Jean-Pierre Chevènement, à nos confrères du Parisien ce matin. L'ancien ministre de l'Intérieur suggère aux musulmans, je le cite, le recours à la raison naturelle, un principe, dit-il, que le prophète recommande 44 fois, selon l'islamologue Jacques Berck, cité par Jean-Pierre Chevènement lui-même dans cette interview. Jean-Pierre Chevènement qui poursuit, comme le recteur de la mosquée de Bordeaux, dans cette période difficile, dit-il, le conseil que je donne aux musulmans est celui de la discrétion. Un 15 août, jour des célébrations chrétiennes de l'Assomption en France. Cette année, sécurité plus que doublée au Puy-en-Velay. 15 000 pèlerins attendus pour la procession de la Vierge Noire, idem à Lourdes. Sécurité augmentée pour les 25 000 visiteurs présents ce matin lors de la messe en plein air. C'est une étude publiée chaque année sur le coût de la vie pour les étudiants. Le syndicat UNEF pointe une constante augmentation et appelle au passage à une refonte de la protection sociale des jeunes et à un plan ambitieux pour la vie étudiante. Bonjour Marion Chantreau.
Bonjour.
La moitié des étudiants cumulent désormais son parcours universitaire avec un emploi et plus d'un sur dix contracte un crédit.
Oui, 12% des jeunes financent aujourd'hui leur cursus universitaire avec l'aide d'un prêt bancaire d'un montant moyen de 10 000 euros selon l'UNEF et près de 50% des étudiants occupent un emploi pendant l'année scolaire, 30% à temps plein. Dans la moitié des cas, ces petits boulots n'ont aucun rapport avec les études suivies. Pour le syndicat, ce salariat étudiant est la principale cause d'échec en licence. La rentrée 2016 s'annonce donc plus chère pour les étudiants. Le coût de la vie augmente pour eux de 1,23%, près d'un point de plus que l'inflation. Depuis le début du quinquennat de Hollande, on est à plus 9,7%, souligne le premier syndicat étudiant classé à gauche. En cause, l'augmentation des prix des loyers dans 15 villes universitaires. Le logement, rappelons-le, représente 55% du budget des étudiants et dans plus de la moitié des villes étudiantes, les loyers des petites surfaces augmentent. La palme revient à Bordeaux. Le loyer moyen a augmenté en un an de près de 5%, de 468 à 490 euros, suivi par Le Mans, Orléans, Orléans, Caen. Côté transport, c'est aussi à Bordeaux que la hausse de tarif est la plus forte, plus 7,4%. Pour l'UNEF, ces augmentations vont accentuer les inégalités sociales, la précarité. Le syndicat mobilisé ces derniers mois contre la loi travail a obtenu quelques mesures de protection. L'augmentation des bourses, le gel des frais d'inscription, des tarifs de restauration universitaire, de la sécurité sociale. Mais à moins de 9 mois de la présidentielle, le syndicat réclame un nouvel investissement dans le système de bourse qui touche selon lui trop peu d'étudiants, l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans et des aides indirectes pour le logement.
Marion Chantreau, et rappelons que ces organisations étudiantes et lycéennes comme l'UNEF ont maintenu leur opposition à la loi travail et appelé aux côtés des autres syndicats de salariés une journée de mobilisation. Ce sera pour la rentrée le 15 septembre. 2 ans après leur enlèvement, une vidéo montre les visages des filles de Chibok, ces lycéennes séquestrées par la secte islamiste nigériane Boko Haram. Nadine Epstein.
Depuis avril 2014, des dizaines de ces lycéennes de Chibok ont réussi à s'échapper, mais environ 200 jeunes filles sont toujours portées disparues. En publiant une vidéo hier, Boko Haram prouve que ces jeunes filles sont toujours vivantes, au moins une partie d'entre elles. Et le groupe djihadiste de proposer aux autorités nigériennes l'échange de ces lycéennes contre les combattants de Boko Haram emprisonnés. Les insurgés islamistes précisent que certaines de ces filles sont entre leurs mains, qu'une quarantaine ont été mariées et que d'autres sont mortes dans les raids. Comme ce n'est pas la première fois que nous sommes contactés de cette manière, nous voulons être sûrs que ceux avec qui nous sommes en contact sont bien ceux qu'ils prétendent être, a déclaré le ministre nigérian de l'Information et un autre porte-parole gouvernemental d'ajouter, quoi qu'il en soit, nous sommes en train d'étudier les vidéos pour voir si les victimes sont mortes d'autres causes que l'allégation d'une frappe aérienne. Dans la vidéo, en effet, un homme masqué se présentant de Boko Haram soutient que l'armée nigériane avait tué des jeunes filles au cours de bombardements. Ce que répète une voix féminine, des avions militaires ont tué certaines filles. Cette voix a été reconnue par un père qui affirme qu'il s'agit de sa fille, mais l'armée de l'air conteste avoir touché les jeunes filles. Depuis l'an dernier, une coalition, le Nigeria et ses voisins, Cameroun, Niger et Tchad, ont mené plusieurs offensives contre Boko Haram, réussissant à récupérer certaines régions prises par Boko Haram depuis 2009. Boko Haram, qui rêve d'une république islamique intégriste dans le nord du Nigeria, à majorité musulmane, a en 7 ans commis des violences qui ont tué 20 000 personnes et fait plus de 2,5 millions de déplacés, dont 2 millions au Nigeria.
Nadine Epstein, 4 jours après le scrutin, le résultat de l'élection présidentielle en Zambie se fait toujours attendre. Il y a un an et demi, seulement 28 000 voix séparaient les deux principaux candidats, le sortant Lungu et l'opposant Hichilema. De nouvelles élections convoquées donc dans ce pays d'Afrique australe semblent conduire à un résultat presque tout aussi serré. Ce midi, le président Lungu serait en tête avec un peu moins de 100 000 voix d'avance. Le résultat devrait être connu dans la journée. Des frappes de plus en plus intenses ces dernières heures dans le nord de la Syrie. Frappe menée par le régime syrien, mais surtout son allié russe. 2 provinces du nord sont ciblées, les provinces d'Idleb et d'Alep, avec déjà, Nabila Hamel, de nombreuses victimes recensées.
Oui, si la libération de Minbej au nord par les FDS, un mouvement de résistance majoritairement kurde et soutenu par les États-Unis, a permis de bouter hors de la ville les djihadistes de l'EI, Damas et Moscou donnent l'impression aujourd'hui de vouloir reprendre eux-mêmes la main contre l'EI et aussi contre les autres groupes rebelles. C'est la bataille pour la reprise du contrôle total d'Alep qui se joue donc. C'est un enjeu majeur. Alep est la deuxième ville de Syrie. Le régime de Damas en contrôle l'ouest, mais tous les quartiers est sont toujours entre les mains de la rébellion. Les raids intensifs menés depuis hier visent donc principalement les zones sous contrôle de l'armée de la conquête, une alliance entre plusieurs groupes rebelles et l'ex-front Nosra qui a changé d'appellation après s'être officiellement déclaré affranchi de ses liens avec Al-Qaïda. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un canal d'information important sur l'actualité syrienne, ces raids ont fait 45 morts, des civils pour la plupart. Ces raids visaient le quartier de Ramoussa, dans lequel les insurgés sont entrés il y a une semaine. Les rebelles ont tenté depuis de renforcer leur position après avoir réussi à ouvrir une voie de ravitaillement dans ce secteur. Or, cette ville qui abritait une ancienne cimenterie, ce qui servait de caserne aux forces du régime, est en train d'être reprise par ces bombardements. Il faut ajouter que ces dernières 24 heures, les raids se sont étendus, vous le disiez, à la province d'Idlib et ont fait 22 autres victimes.
Nabila Hamel à Milwaukee, ville du nord-est des États-Unis. Deuxième nuit de violence après qu'un jeune homme noir a été tué par la police samedi après-midi. L'homme en question est présenté par les autorités comme un suspect connu pour des faits de cambriolage au casier judiciaire fourni. Mais la réaction des proches et des habitants est très forte. La situation est jugée très instable encore ce matin par le maire de cette ville du Wisconsin. Enfin, vous souvenez-vous de ce qui avait été surnommé la révolte des parapluies, des manifestations monstres pro-démocratie à Hong Kong il y a tout juste 2 ans. Eh bien, la justice s'est prononcée contre 3 de ces militants, parmi les plus connus. Le jugement rendu à l'encontre de ces 3 personnes le mois dernier, dans lequel ils risquaient 2 ans de prison, a été ramené, on va dire, à la baisse. Il n'écope finalement que de travaux d'intérêt généraux. Le temps de ce lundi après-midi, très ensoleillé et très chaud, notamment au sud de la Loire. Température maximale pour ce 15 août, 22 à 26 degrés au nord, puis en descendant vers le sud, 26 à 31 degrés, jusqu'à 32, 34 degrés de la vallée du Rhône à l'intérieur de la Provence. Cette édition a été réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal, je vous retrouve à 18h.